Nous accueillons Audrey Azoulay, bonjour.
Vous bonjour
êtes
à tous.
Directrice générale de l'UNESCO, ancienne ministre de la Culture et de la Communication sous François Hollande. Vous organisez aujourd'hui à l'UNESCO un colloque sur la circulation des biens culturels et sur le patrimoine en partage. Un sujet extrêmement brûlant. Pourtant, si on écoute certains acteurs, on vous a fait un petit montage, Audrey Azoulay, par exemple, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Emmanuel Macron, ou le ministre d'État du Bénin, Pascal Coupali, on a l'impression que tout le monde est d'accord. Écoutez.
Le Bénin réclame la restitution de ses œuvres parce que c'est des choses qui nous appartiennent. C'est un bien public, c'est un bien national et ces biens sont liés à notre histoire, à notre culture.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Cette demande de restitution se justifie par le fait que notre pays veut mieux faire connaître à ses populations la valeur de nos biens culturels et historiques à l'étranger.
Alors si tout le monde est d'accord, Audrey Azoulay, pourquoi ce colloque ? Qu'est-ce qui coince au fond ?
Ce qui est intéressant, d'abord, c'est que c'est une question très ancienne. Mais à chaque époque, elle se pose peut-être de façon différente. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mouvement peut-être, je dirais, plus éthique que juridique, sur cette question-là, c'est-à-dire on la regarde différemment, la jeunesse, les artistes, les politiques envisagent cette question des patrimoines de façon différente, parce qu'on l'entendait dans les interventions, derrière le patrimoine, ce qui se joue, c'est des questions à la fois d'identité, des questions, on l'entendait aussi, de développement et de tourisme, dans les mots d'un des ministres, et donc pourtant le cadre juridique qui définit cette question n'est pas du tout celui-là. Aujourd'hui, on a comme cadre juridique une convention qui date des années 70, qui est d'ailleurs une convention qui a été faite à l'UNESCO, qui pose un principe, mais qui ne vaut pas pour tout ce qui concerne la période d'avant 1970, qui fait quand même beaucoup. Et puis, en droit français, s'agissant du droit français, un principe que ce qui est dans les collections publiques reste dans les collections publiques. Donc, en fait, tout est à inventer. Du point de vue juridique, mais pas seulement, et c'est le but aussi de ce colloque, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans des questions juridiques, mais de voir quelles peuvent être des formes aujourd'hui d'échange, de partage, de coopération, au-delà de la seule question des droits juridiques, de propriété sur les œuvres.
Pour situer l'ampleur du problème, Audrey Azoulay, on dit que plus de 90% des biens culturels de l'Afrique sont aujourd'hui en dehors de l'Afrique. Y a-t-il une possibilité de remédier rapidement à ce chiffre qui est quand même exorbitant ?
Alors, c'est un chiffre qui est contesté par certains, notamment par certains Africains, mais qui pose la question d'une éventuelle spécificité de la question du patrimoine africain par rapport à l'ensemble des patrimoines. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle, en France en tout cas, la question est traitée d'abord sur le sujet du patrimoine africain, avec un rapport qui a été demandé par le président de la République à deux éminents experts. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est justement se mettre tous autour de la table, et ne pas être non plus dans un face-à-face stérile bilatéral, je crois, mais regarder ce qui se passe ailleurs, parce qu'il se passe des choses ailleurs, pas seulement entre la France et l'Afrique, il se passe des choses dans d'autres pays européens, il se passe des choses en Amérique, il se passe des choses en Asie, et donc c'est tout ça qu'on va confronter aujourd'hui.
Mais alors, la question qui est posée, c'est de savoir en fait comment on peut aujourd'hui modifier la loi, puisque la loi dit qu'un bien qui est dans une collection publique ne peut pas être restitué. Est-ce qu'on peut changer cette loi, Audrey Azoulay ?
Les lois peuvent toujours être changées, mais je dirais que si on prend la question uniquement par l'angle juridique, on s'expose, je pense, à une impasse. Il faut partir de façon plus large, dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, ce n'est pas uniquement la question de transférer des droits de propriété, mais c'est aussi des coopérations techniques. C'est aussi, comme on a trouvé des solutions d'ailleurs dans le passé, avec des prêts à long terme, avec des regards croisés d'artistes, qui sont très importants aussi. Et je dirais que changer la loi, c'est ce qui peut venir couronner ce processus. Mais ne pas commencer par les questions uniquement juridiques.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que vous pourriez envisager si vous n'envisagez pas de restitution, puisque c'est ce que vous semblez sous-entendre quand vous dites ne pas s'arrêter aux questions juridiques ?
Non, ce que je vais dire, parce que de toute façon, l'UNESCO n'a pas vocation, là on vous parlait du cas français en l'espèce, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement des questions juridiques et que le droit, comme très souvent le droit international, il sera modifié quand les mentalités évoluent. Et que si on s'arrête à la question purement juridique, on n'avance pas.
Alors justement, pour les autres pays, puisque cette question, elle se pose aussi, elle se pose par exemple pour l'Angleterre, pour tous les pays qui généralement ont eu des colonies d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait être fait pour organiser cette circulation des biens culturels à laquelle l'UNESCO tient ?
Alors, qui peut aller jusqu'à la restitution, évidemment. C'est simplement qu'il faut prendre toute la variété. Ça va être l'objet justement des débats que nous aurons aujourd'hui pour montrer des expériences qu'il y a eu en l'espèce sur des questions d'inventaire national qui sont réalisées en coopération, des travaux d'historiens pour les provenances, des recherches qui n'ont jamais été faites parfois dans certains musées. Et on va voir à travers 5 grands exemples ce qui a pu être fait, qui en général d'ailleurs a abouti à des restitutions.
Lesquelles par exemple ? Donnez-nous des exemples de ces restitutions ou en tout cas de cette circulation des biens culturels.
Bon, par exemple, on va regarder ce qui s'est passé sur tout ce qui a eu comme pillage autour de la civilisation Khmer au Cambodge et qui a donné lieu à des restitutions. Donc on va expliquer, reprendre, cheminer avec à la fois les experts et aussi les politiques qui vont nous dire leurs opinions et comment ils veulent aller plus loin.
Cette question se pose-t-elle différemment dans le cas de restes humains, de dépouilles ? Est-ce que là on peut imaginer quelque chose de différent ? Alors la France est concernée par exemple avec la question des ossuaires algériens. Est-ce que vous imaginez autre chose, Audrey Azoulay ?
Je crois que sur la question des restes humains, la sensibilité a été tout de suite plus forte. Il y a l'exemple aussi d'une tête maori qui a été restituée, pour lequel en France, la loi a été modifiée pour permettre de sortir des collections ces restes, parce qu'on sent bien un choc, on sent bien une réticence même de l'opinion publique quand on en parle, alors que ça pouvait paraître tout à fait normal il y a 200 ans. Donc on voit bien que les mentalités évoluent et que c'est peut-être cette question des restes humains qui a été à l'avant-garde et qui a tout de suite permis des restitutions, d'ailleurs en changeant la loi. Parce qu'encore une fois, c'est quand les perceptions changent, quand les mentalités changent, qu'on peut après faire évoluer le droit. Je citerai d'ailleurs, si vous permettez, un exemple même de culture, je dirais, populaire, dans le film Black Panther, qui a eu un succès exceptionnel ces mois derniers. Il y a une scène qui se passe dans un musée britannique, avec la question d'œuvres pillées. Et on voit bien que cette question, elle est présente. Elle est présente aujourd'hui dans la jeunesse, elle est présente dans la société et elle appelle à des solutions nouvelles.
Alors cette restitution, déjà, elle est compliquée lorsqu'on a affaire à un État, lorsqu'on a affaire à ce que l'on appelle par exemple un peuple premier. Je pense à la Colombie-Britannique où là, il y a aussi des questions donc de restitution des biens à des tribus. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement ?
Il y a une chose qu'on remarque quand même souvent, c'est que pour éviter de restituer, on se pose la question de « mais que vont-ils faire des œuvres et où vont-ils les mettre ? Sont-ils capables de garder ?» Ce qui en soi est un problème, parce que soit on doit restituer, soit on doit partager, mais de là à questionner après la légitimité à garder, la façon dont c'est fait, on voit bien que en général c'est un frein, c'est fait pour freiner la restitution. Donc on peut tout à fait restituer à des entités non étatiques, on peut restituer des œuvres qui ne vont pas forcément dans un modèle classique de musée, on n'est pas obligé d'imposer notre modèle étatique muséal lors des échanges sur ces œuvres.
Bon, après tout, lorsque l'UNESCO réfléchit sur la circulation des œuvres, la mission même d'ailleurs de l'UNESCO est de considérer qu'il y a un patrimoine mondial de l'humanité sur le plan culturel, qu'au-delà donc de la possession des hommes, il y a quelque chose qui dépasse le cadre national. Vous faites beaucoup d'actions d'ailleurs en ce sens, Audrey Azoulay, y compris d'ailleurs pour des villes qui ont été martyrisées par la guerre.
Absolument. Cette idée de valeur universelle du patrimoine est très importante. Elle est à l'origine de nos classements, elle est à l'origine aussi de toute notre action pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Et là, nous venons de lancer, il y a 3 mois, une grande initiative pour la ville de Mossoul en Irak, qui est une ville qui était symbole de la diversité, qui avait un patrimoine matériel magnifique, mais aussi des universités, des librairies, une diversité religieuse. Cette ville a été réduite à néant par les années d'occupation par Daesh. Et donc nous avons lancé une grande campagne et avec déjà beaucoup de mobilisation autour de nous sur la reconstruction à la fois matérielle de ce patrimoine, mais aussi humaine, éducationnelle, pour reconstruire les institutions éducatives. Nous étions encore avec l'université.
Alors justement, qu'est-ce qui est en cours actuellement à Mossoul,
Mossoul? Alors déjà, la première chose, c'est que Mossoul est encore miné. Donc nous travaillons avec d'autres agences des Nations Unies sur le déminage, l'accès, etc. Mais d'abord, nous voulons faire revivre cet esprit de Mossoul et pour ça, le faire partager à tous à travers l'UNESCO. Et nous aurons d'ailleurs en juillet, je vous y invite, une rencontre avec la société civile mossouliote, les blogueurs, les universitaires, tous ces gens pour parler de cette ville, le refaire. Et puis nous sollicitons ensuite des donateurs. Certains ont déjà répondu à notre appel, mais nous ferons une conférence en septembre pour financer ces travaux sur le musée, reconstitution du musée, sur la fameuse mosquée avec son minaret penché, sur d'autres domaines du patrimoine de la ville, pour donner aussi un sens d'espoir et de futur à ces communautés à Mossoul et qu'elles puissent de nouveau y vivre en paix.
La conservation du patrimoine, c'est aussi un débat d'actualité, comme vous le savez, en France, Audrey Azoulay. Votre regard sur la manière dont ce patrimoine français est conservé avec plus de 4000 bâtiments qui seraient aujourd'hui en péril ou en tout cas sous-financés pour leur maintien?
D'abord, je pense que c'est un enjeu majeur parce que ça fait partie de ce qu'est la France, de ce qui nous relie les uns aux autres, les Français, et aussi ce qui est notre attractivité. Donc c'est un enjeu majeur. Quand je voyage à travers le monde, je ne pense pas qu'on puisse dire que le patrimoine français soit en péril. La France a quand même eu une politique d'entretien, de soutien de son patrimoine formidable. Mais bien sûr, le chantier est immense et on a toujours des besoins, on a toujours la nécessité de participer au financement, à la sauvegarde de ce patrimoine. Et je trouve qu'il est intéressant qu'en ce moment, justement, on en parle beaucoup à travers l'initiative de l'auto du patrimoine. C'est très bien, ça amène un peu plus d'argent, mais surtout ça fait, je pense, prendre conscience aussi aux Français de la diversité de ce patrimoine qu'on a souvent tendance à ramener à quelques pièces maîtresses.
Et lorsque le patrimoine français est un patrimoine qui a été pillé ou alors emprunté, l'exemple le plus classique et le plus évident, c'est évidemment l'obélisque qui est à la Concorde. Qu'est-ce que l'on peut faire? Quel est votre regard, Audrey Azoulay?
Ouais. L'ensemble, si vous voulez, quand on se promène dans nos musées, cette question est toujours là. C'est le produit de l'histoire et encore une fois, c'est aussi vieux que le monde. Mon regard en tout cas, c'est que ce qui est important, c'est que ce patrimoine vif soit partagé, soit expliqué. Qu'il ne soit pas une donnée sèche, expliquer l'histoire, comment cet obélisque est arrivé
si
là.
Si les Égyptiens voulaient retrouver leur obélisque, qui n'est pas le cas aujourd'hui, quel discours à tenir?
Ça n'aurait pas de sens que de vouloir revivre et refaire l'histoire à rebours complètement. Le patrimoine, place de la Concorde, il a vécu depuis une nouvelle vie. Mais simplement, ça peut être un instrument d'abord de vie, de dialogue, d'explication et d'histoire.
Restituer, c'est aussi savoir à qui on restitue. Il y a un certain nombre de pays qui ont un patrimoine d'une grande richesse, qui sont aujourd'hui des dictatures. Je pense par exemple à la Syrie. Et quand on restitue des œuvres ou quand on discute avec des dictatures, comment faire pour à la fois la préservation des œuvres et pour concilier ça avec les droits de l'homme ou la priorité des droits de l'homme?
La Syrie, c'est un exemple intéressant, parce que notamment pour l'UNESCO. Parce que vous savez qu'il y a un patrimoine qui a été martyrisé, détruit, et on a tous en tête l'exemple de Palmyre et de son conservateur qui est resté jusqu'au bout et qui a été assassiné sur place. Et par exemple, la question se pose pour nous, pour l'UNESCO, de quelle intervention en Syrie? Et dans les conditions actuelles, dans les conditions tragiques que l'on sait, avec les souffrances que l'on connaît pour le peuple syrien qui a quand même vécu le martyr et qui continue de le vivre, eh bien nous nous limitons à des interventions techniques et d'urgence, alors qu'il y aurait tant à faire sur le patrimoine, mais ce n'est pas possible d'agir de façon durable dans les conditions politiques actuelles.
C'est pas possible parce que moralement c'est impossible. Vos interlocuteurs sur place, que disent-ils ?
On a assez peu de contact en réalité avec le régime actuel et c'est à la fois une question morale, technique, sécuritaire, enfin autant de bonnes raisons pour aujourd'hui se limiter à vraiment l'urgence l'humanitaire pour le reste des agences des Nations Unies, mais pour l'UNESCO, vraiment l'assistance technique d'urgence, alors que nous aurions énormément à faire sur place, dans le long terme, et avec plus de moyens, et j'espère que nous y arriverons un jour.
On voit bien que le sens, la notion même de patrimoine, elle évolue, elle est oui. De plus en plus immatérielle. On parle par exemple du menu français comme donnée, ou en tout cas comme partie intégrante du patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que le patrimoine immatériel, qui est d'ailleurs reconnu par l'UNESCO, de la même façon que le patrimoine matériel, nous avons des listes du patrimoine immatériel universel avec des traditions, des chants, de l'artisanat. Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est ça aussi qui fait la fierté des gens, qui fait la cohésion de certaines communautés et qui a une valeur universelle. Et à travers le patrimoine immatériel, à travers des danses, à travers des musiques, on retrouve aussi l'histoire de migration, l'histoire de communauté. La gastronomie entre aussi beaucoup dans le patrimoine immatériel, parce que c'est là aussi que se reflète l'histoire des hommes.
Alors il y a par exemple une pétition avec notamment des architectes qui demandent le classement de Notre-Dame-des-Landes au patrimoine de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Azoulay ?
Alors, cette demande ne nous a pas été portée par
c'est
la
dommage.
France.
Écoutez, je la fais voilà. À ce micro. C'est un lieu où des hommes ont inventé, ont créé des choses. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben à ce moment-là, si la France en faisait la demande, il faudrait voir quelle est la valeur universelle.
Ah, alors il va falloir voir ça avec Emmanuel Macron, Gérard Collomb.
Absolument. Je me délecte par avance de cette scène.
Vous avez été ministre de la Culture, vous l'avez été peu de temps, François Hollande a décidé de ne pas se représenter. Qu'est-ce que vous auriez continué à faire si vous aviez eu le temps de poursuivre votre mission, Audrey Azoulay ?
Bon, c'est difficile de répondre à cette question, mais je suis fière de ce que nous avons fait, en tout cas.
Quels sont les points, justement, qui vous paraissent particulièrement importants ? Qu'est-ce qui, à l'actif de la politique culturelle de François Hollande, doit être souligné ?
C'est un bilan collectif à faire, mais pour ce qui me concerne et pour la période où j'y étais, moi, je suis très fière qu'on ait réussi, par exemple, à sécuriser un des piliers de la création en France, du soutien à la création, qui est le régime des intermittents des artistes et des techniciens du spectacle. Ça me paraît très important que nous ayons soutenu la création dans sa diversité, que nous ayons soutenu la création à l'école, que nous ayons soutenu la lecture à travers la nuit de la lecture, à travers pour la première fois un fonds qui permettait de financer l'élargissement des horaires des bibliothèques. Donc il y a énormément de points de fierté, de projets qui ont été lancés et pour beaucoup d'ailleurs poursuivis par l'actuel gouvernement. Je pense aux microfolies sur le territoire, je pense...
Vous pensez qu'il y a continuité avec la politique culturelle aujourd'hui, rupture ?
C'est un peu tôt pour le dire, mais je vois qu'il y a beaucoup d'axes qui sont poursuivis et des axes qui sont nouveaux, ce qui est bien normal.
Nous avons parlé de Notre-Dame-des-Landes au patrimoine mondial de l'humanité, l'audiovisuel public au patrimoine mondial de la France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En tout cas, l'audiovisuel public, je pense qu'il joue un rôle sous-estimé, un rôle très important dans à la fois les représentations sociales, dans l'ensemble de la société et dans la création. Donc moi, j'y suis très attachée.
Merci Audrey Azoulay, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'UNESCO. Un colloque aujourd'hui sur la circulation des biens culturels et le patrimoine en partage. On continue à évoquer le patrimoine, mais le patrimoine de France à 8h20 en compagnie de l'historien Alexandre Gady.